Bonjour Sam, on plonge aujourd'hui dans une transformation assez majeure des réseaux. On entend beaucoup parler du passage des boîtiers physiques, là les équipements dédiés, vers des solutions logicielles, beaucoup plus souples apparemment.
C'est tout à fait ça, oui. Une vraie tendance de fond.
Et au cœur de tout ça, il y a cette technologie, la virtualisation des fonctions réseau, la NFV. Qu'est-ce que c'est concrètement ?
La NFV, c'est une approche pour découpler les fonctions réseau, comme le routage, le pare-feu, du matériel physique sur lequel elles tournent traditionnellement.
D'accord. Pour préparer cette discussion, on s'est appuyé sur plusieurs sources, des articles techniques bien sûr, et aussi le blog d'une société, Integral Systems. Ils sont spécialisés en matériel informatique industriel et ils touchent pas mal à la NFV, donc source intéressante.
Oui, ils ont une bonne expertise sur les aspects matériels, justement, qui sont importants pour la NFV.
Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre simplement ce qu'est la NFV. Et puis après, voir un peu les détails, hein, comment ça marche, les plus, les moins. Alors, si je tente une explication simple, vraiment en gros, la NFV, c'est prendre un routeur physique, un pare-feu, et le remplacer par un logiciel. C'est ça ?
Exactement. C'est l'idée de base. Ces fonctions logicielles, on les appelle des VNF, pour Virtual Network Functions. Et au lieu de tourner sur des boîtiers spécifiques, souvent chers, elles fonctionnent sur du matériel standard, des serveurs x86 classiques, quoi.
Ah oui, comme ceux qu'on trouve dans les data centers.
Voilà. L'idée, c'est vraiment de virtualiser les services réseau pour que tout soit plus agile, moins coûteux et plus simple à gérer.
D'accord. Et techniquement, comment on fait pour que tout ça fonctionne ensemble ? Surtout si on a des logiciels de différents fournisseurs.
Alors, c'est une bonne question. Pour éviter le chaos, il y a une architecture standard, définie par l'ETSI, l'Institut européen des normes de télécommunication. Elle repose sur trois gros piliers. D'abord, l'infrastructure NFVI, la NFVI, c'est la base matériel-serveur, stockage, réseau, et la couche logicielle de virtualisation.
Le fameux hyperviseur, comme KVM ou VMware.
Exactement, l'hyperviseur pour créer des machines virtuelles, ou alors des systèmes de conteneurs qui sont plus légers. C'est sur cette NFVI que tout va reposer.
D'accord, la fondation. Et ensuite ?
Ensuite, il y a les VNF elles-mêmes, les fonctions réseau virtualisées dont on parlait. Pare-feu virtuel, routeur virtuel, etc. Ce sont ces logiciels qui tournent sur la NFVI.
Logique. Et le troisième pilier ?
Le troisième, c'est le MANO, Management and Network Orchestration. C'est un peu le cerveau du système. C'est lui qui gère tout. Il déploie les VNF, il leur donne les ressources nécessaires de l'infra, via un composant qu'on appelle le VIM, le Virtualized Infrastructure Manager, et il orchestre comment les services s'enchaînent.
Le chef d'orchestre, en quelque sorte.
C'est une bonne image, oui. Il coordonne l'ensemble.
C'est plus clair. Et les avantages, alors ? On parle souvent de rapidité. Déployer un service en quelques minutes au lieu de mois, ça doit changer la donne.
Ah oui, l'agilité, c'est le premier gros avantage. Le temps de mise sur le marché, le fameux « time to market », est considérablement réduit. On peut tester, lancer de nouvelles offres beaucoup plus vite.
Et les coûts ? J'imagine que si on utilise des serveurs standards...
Ben oui. Deuxième avantage clé, la réduction des coûts. Moins de dépenses d'investissement, le CAPEX, parce qu'on achète du matériel standard, mutualisé. On évite aussi d'acheter des équipements surdimensionnés, au cas où.
Moins de gaspillage.
Voilà. Et potentiellement moins de coûts opérationnels, l'OPEX, grâce à l'automatisation que permet le MANO, la gestion centralisée, et parfois une consommation d'énergie plus faible.
Intéressant. Et la flexibilité. Pouvoir augmenter ou diminuer la capacité à la demande.
C'est le troisième grand avantage. L'évolutivité. On ajuste les ressources quasi en temps réel selon les besoins. Fini le surprovisionnement massif. On peut aussi faire tourner plusieurs fonctions sur le même serveur.
Optimisation maximale.
C'est l'idée. Mais attention, ce n'est pas magique non plus. Il y a des défis.
Ah oui. Lesquels ?
Le premier, c'est souvent la performance. La couche de virtualisation peut ajouter une petite latence ou brider un peu le débit, surtout quand ça chauffe.
D'accord. Et comment on gère ça ?
Il faut des optimisations. Parfois logicielles, comme DPDK qui accélère le traitement des paquets réseau. Parfois matériels. On peut dédier des cœurs de CPU, utiliser des technologies comme SRIOV ou des cartes réseau intelligentes, les SmartNIC, qui déchargent le processeur principal.
D'accord, donc il faut quand même du matériel un peu spécifique ou bien configuré ?
Disons qu'il faut du matériel adapté et bien configuré, oui. L'autre défi majeur, c'est la sécurité.
J'imagine, si on met les services de plusieurs clients ou différentes fonctions critiques sur la même machine...
Exactement. Le multi-tenant, faire cohabiter tout ce monde sur la même infrastructure, ça demande une isolation très, très stricte. Il faut absolument éviter qu'une VNF puisse voir ou attaquer une autre, ou qu'il y ait des fuites de données. C'est crucial.
Logique. Malgré ces défis, on voit déjà des cas d'usage concrets.
Oui. Oui, tout à fait. Dans la 5G, par exemple, au lieu de tout ramener au cœur de réseau central, un opérateur peut déployer certaines fonctions 5G, comme une partie de l'EPC, directement en périphérie, sur une petite appliance près de l'antenne. Ça réduit la latence pour l'utilisateur final, ce qui est super important pour la 5G.
Ah oui, pour le edge computing. Et dans l'industrie ?
Pareil. Dans une usine connectée, l'industrie 4.0, au lieu d'avoir une boîte pour le pare-feu, une autre pour la passerelle VPN, une troisième pour l'IoT, on peut virtualiser tout ça sous forme de VNF sur un seul serveur industriel, un serveur durci, qui résiste à l'environnement de l'usine. Ça simplifie l'archi et la gestion.
D'accord. Donc pour résumer, les NFV, c'est passer du matériel dédié au logiciel sur des serveurs standards. Ça mène beaucoup d'agilité, des économies potentielles, mais ça demande de bien gérer la performance et la sécurité. Et il y a une certaine complexité à maîtriser.
C'est une bonne synthèse, oui.
Et justement, pour relever ces défis, notamment la performance ou le déploiement dans des environnements un peu rudes, comme une usine, le matériel en dessous reste important. C'est là que des entreprises comme Integral Systems, qu'on citait au début, interviennent. Ils proposent des solutions matérielles adaptées.
Oui, c'est ça. Ils travaillent avec des fabricants comme Advantage, par exemple, pour fournir ce qu'on appelle des appliances réseau.
Des appliances réseau, c'est-à-dire ?
Des boîtiers souvent durcis, optimisés pour ça. Comme leur gamme FWA, par exemple. Ce sont des plateformes matérielles conçues spécifiquement pour héberger ces VNF de manière efficace.
Et ça existe pour différents niveaux de puissance, j'imagine ?
Tout à fait. Selon les besoins de l'application, que ce soit une petite fonction en périphérie ou un gros service centralisé, ils ont des plateformes matérielles calibrées.
D'accord. Donc, le matériel n'a pas disparu, il s'est adapté ?
Il est devenu plus standard, plus flexible, mais il doit être performant et fiable pour supporter la virtualisation. Et ça ouvre une question intéressante pour la suite, non ?
Laquelle ?
Mais si toutes ces fonctions réseau essentielles, même les plus critiques, deviennent finalement des applications logicielles comme les autres, qu'est-ce que ça va vouloir dire demain, une infrastructure réseau ? Ça redéfinit un peu tout, non ?
C'est vrai, ça laisse matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Avec plaisir.